au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Anne Sauty de Chalon.
Damien Leguet, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Canal Académie pour parler de La Cité sans Dieu. La Cité sans Dieu aux éditions Flammarion. Vous êtes philosophe et vous intervenez régulièrement sur notre antenne. C'est l'occasion peut-être d'aborder un sujet grave qui domine notre société actuelle. La Cité sans Dieu, le sang est évidemment privatif. On pense à une crise peut-être de spiritualité, de sens. Nous avons, et c'est là-dessus que je jouerai, entre sens, S-A-N-S, sens, S-E-N-S. Il y a un changement de lettre là qu'il faut identifier.
Moi, ce que je crois, c'est que, si vous voulez, la crise que nous connaissons a montré qu'il y a un vrai problème de sens et un vrai problème spirituel. Je crois que la crise que nous connaissons est avant tout une crise morale, une crise des comportements, une crise du sens que l'on donne au vivre ensemble. Donc, il m'a semblé, et c'est l'objet de mon livre, qu'il importait d'examiner de plus près ces réserves de sens que les religions ont et qui peuvent intervenir ou réintervenir ou avoir voix au chapitre dans le débat, alors que pour l'instant, dans le cas français en particulier, ces voix et toutes ces réserves de sens sont plutôt mises de côté, qu'elles ne participent normalement, légitimement, à leur place, sans excès particulier, au débat.
Au secours, vive les religions, il faut qu'elles reviennent dans le débat.
Il ne faut pas qu'elles reviennent dans le débat, il faut qu'elles trouvent leur juste place, voilà, sans revenir aux temps anciens où on pouvait penser, dans certains aspects, qu'elles dominaient, mais sans non plus les mettre de côté comme elles le sont aujourd'hui. Moi, il me semble que les religions sont d'autant plus dangereuses, et beaucoup sont là pour crier effectivement aux intégrismes, les religions sont d'autant plus dangereuses qu'elles sont méprisées, mises de côté et inconnues. Plus nous sommes capables, collectivement, d'avoir connaissance de ces textes-là, moins l'emprise des intégrismes sera fort sur les dits textes et les dites religions.
Vous récriminez contre le système laïque, alors, qui cloisonne fortement le privé et le public, ou alors le laïcisme à la française, qui fait effectivement une cloison étanche entre ces deux univers.
Alors, il y a deux laïcités, et même, je pense même qu'il faut, dans ce livre, je plaide pour bannir...
Vous ne l'employez pas, vous ne voulez pas l'employer.
Voilà, de bannir effectivement ce mot de laïcité qui cache beaucoup de réalités différentes. Le principe de la séparation est ô combien important, c'est même le principe même, dit Pierre Manant, de la démocratie, que de séparer, que de cliver, que de faire en sorte qu'il y ait des étages différents, première chose. Mais derrière la laïcité se cachent aujourd'hui, surtout en France, des laïcités d'ignorance, pour reprendre ce que disait Régis Debray, qui sont ô combien fortes et qui occultent ces réalités-là et ce que les religions peuvent apporter à la fois au débat public et à la compréhension que les individus peuvent avoir d'eux-mêmes et de toutes ces réalités qui échappent à la rationalité, disons classique. Et donc, je plaide, comme Régis Debray l'avait fait dans son rapport, pour le passage d'une laïcité d'ignorance, si on veut, à une laïcité d'intelligence qui permette, un, de remettre les religions dans le débat, premièrement. Deuxièmement, de considérer qu'il y a là un objet de culture, de connaissance, de savoir qui fait en sorte que plus on connaît cet héritage-là et plus on est capable de considérer cela comme un élément important, plus les facteurs pernicieux à l'intérieur des religions seront naturellement jugulés.
Alors, Damien Leguet, que voulez-vous dire par remettre les religions ou mettre les religions au cœur du débat ? Qu'est-ce que cela veut dire concrètement ? Il faut enseigner toutes les religions à l'école ? Il faut que l'État s'investisse en la matière ? Quelle forme cela peut-il prendre ?
Alors, l'enquête que j'ai menée dans ce livre-là fait apparaître une singularité française. J'ai interrogé en particulier Jean-Pierre Willem, que j'ai interrogé sur Canal Académie, et qui lui dit qu'effectivement, au niveau européen, les religions sont considérées comme des forces de conviction qui permettent de former la conviction des individus et qui sont dépositaires au niveau européen d'une certaine morale commune. Et donc, l'enseignement naturel des religions en tant que tel à l'école est naturel, simple pour tout le monde. En France, nous sommes dans une position, sans doute eu égard à notre histoire, très différente de cela. Et la championne, si on veut, de la laïcité, enfin de la sociologie des religions en France, Danielle Hervieux-Léger, elle considère ouvertement, elle l'a dit, je cite le texte et effectivement le débat qui a eu lieu entre elle et Jean-Pierre Willem, elle considère qu'effectivement il y a dans les religions des éléments de domination et donc le rôle des politiques c'est de mettre en quarantaine les dites religions pour éviter que ces gènes religieux ne ressurgissent, ne reviennent de façon forte et ne mettent sous leur coupe la société et les individus.
Alors en fait, le clivage, Damien Le Guen, dans lequel on est toujours, c'est d'un côté, il y a ceux qui estiment qu'il y a le rationnel, qui est du côté de la laïcité, et de l'autre, l'irrationnel, et donc le fanatisme, qui est du côté des religions. Or, vous vous dites, c'est absurde, puisque ça serait considérer que les personnes qui sont rationnelles n'ont pas de certitude et n'ont pas de fanatisme, et ne peuvent pas être fanatiques.
D'abord, il faut considérer, j'ai bien aimé le livre de Thérèse Delpech qui vient de paraître, il faut considérer la part d'ombre, la part d'irrationnel qui existe chez tout individu quel qu'il soit religieux ou qu'il ne soit pas religieux, d'une part. Deuxièmement, nous avons bien vu, nous voyons bien qu'il y a des limites au pari moderne tel qu'il est fait, c'est-à-dire effectivement tel que vous le rappelez, de considérer que tout ce qui est perdu en religion, qui serait du côté du fanatisme, serait gagné en rationalité et en société. Ce pari-là, le pari moderne, si on veut l'appeler comme ça, a montré toutes ses limites et la part d'irrationnel, de passion, de conviction, existe dans quelques domaines que ce soit et auprès de quelques personnes que ce soit. Donc, la question, c'est de dire, ne faut-il pas mettre le plus de rationalité possible, si on veut, dans cette part d'ombre de conviction, de passion et les religions peuvent, c'est d'une certaine façon leur fonds de commerce, si on peut dire ça comme ça, les religions peuvent justement mettre le plus de rationnel, d'une autre forme de rationalité, dans les passions, l'amour, les convictions, pourquoi vit-on, le sens que l'on donne, etc. etc. Voilà.
Vous êtes pour inculturer la religion, en fait, au maximum ?
Non, je suis pour considérer que la religion apporte de la rationalité, donc apporte de la compréhension, donc apporte des lumières, donc apporte de l'intelligence dans des domaines, les relations interpersonnelles, l'amour, la fidélité, des valeurs qui n'existent pas, au sens qui ne sont pas des objets extrêmement visibles dans le champ de la science et ou de la connaissance, mais qui sont ô combien essentielles dans le vivre ensemble,
c'est cela. Le lien social. Que ce ne soit pas une case que l'on sort de temps en temps, le dimanche matin pour les catholiques, le vendredi pour les musulmans et le samedi pour les juifs.
Voilà,
c'est que ce ne soit pas un tiroir dans la semaine.
Voilà, c'est que c'est tous ces éléments-là de conviction, de sens, de relation, d'affection, d'amour, appelons ça comme vous voulez, que tous ces éléments-là sont l'objet, si on veut, l'objet à la fois d'études et d'éducation des religions. Et donc, remettre tout cela et considérer que tout ce que peuvent dire les religions est naturellement, trouve naturellement sa place dans l'espace public, me semble être une évolution naturelle et évidente. Et donc, revenir, disons, à une relation décomplexée, plus simple, plus naturelle des religions avec les autres formes de convictions, quelles qu'elles soient. Voilà. Donc il n'y a pas d'une part les convictions qui ne seraient que religieuses, parce que tout le monde a des convictions et tous les philosophes, tous ceux qui interviennent ont des convictions par ailleurs. Bon. Donc il suffit de le dire.
Donc voilà. C'est bien là le piège, c'est de croire que seuls les religieux ont des convictions.
Exactement, exactement.
Ce qui est un piège pour eux, évidemment.
Tout le rationnel s'appuie sur de l'irrationnel et tout ce qui est irrationnel s'appuie sur du rationnel. Donc les deux vont ensemble et on ne peut pas imaginer qu'il y en aurait certains qui fonctionneraient comme cela et d'autres qui ne fonctionneraient pas comme cela. Donc tout le monde fonctionnant comme cela, il me semble effectivement qu'il faut, pour se sauver soi-même, je rappelle cette phrase au début de mon livre de Tocqueville, qui considère qu'effectivement, dans une démocratie, la place de la religion est encore plus importante que dans le système aristocratique. Pourquoi ? Parce que la démocratie développe par elle-même un tropisme particulier, à savoir l'égalité, l'égalisation, et puis le repli des individus sur une sphère privée. Et donc, la religion qui permet de voir autrement, de voir un peu plus loin, de prendre en considération d'autres formes d'universalité, non pas l'individu, mais l'universel, le collectif, etc., que donc la religion a toute sa place et qu'elle est d'autant plus nécessaire, dit Tocqueville, que la démocratie est forte.
Mais la France a évolué très différemment de ce principe de Tocqueville.
C'est-à-dire que la France n'a pas pris en considération effectivement cette analyse tocquevillienne, qui est une analyse relative à la démocratie. Tocqueville n'était pas religieux particulièrement, mais il avait bien compris que s'il n'y a pas de contrepoids à l'avancée de la démocratie, cette démocratie peut devenir tyrannique. Voilà. Et donc, partant de ce principe-là, il dit qu'il importe que les individus puissent lutter contre le tropisme singulier de la démocratie, le repli, la contemplation de soi, etc. Bon. Et donc, pour reconsidérer le lien, le collectif, l'assemblée, la communauté, enfin bref, voilà, tout cela. Et donc, dit Tocqueville, et je pense que cette intuition-là est judicieuse, il importe de remettre, de tenir la religion comme un des contrepoids de la démocratie livrée elle-même.
En fait, en France, on a peut-être rejoué les guerres de religion, parce que ce que l'on appelle le combat laïque, c'était quand même le faux-nez d'une forme d'athéisme. Donc, d'une certaine façon, on est resté dans la sphère religieuse, peut-être, mais sans le dire, en confondant aussi peut-être religion et cléricalisme et clergé, parce que ça, c'est aussi un autre aspect du problème. Ce que voulaient certains, c'était peut-être moins de clergé, mais pas forcément annuler la religion. C'était peut-être... Les mots sont très, en tout cas, piégés dans ce domaine-là. Hein. Voilà. Il faut vraiment savoir de quoi on parle. D'ailleurs, même sur le chapitre religieux en tant que tel, qu'est-ce que ça veut dire les religions ? Est-ce que toutes les religions se valent-elles ? Toutes les religions se valent-elles ?
Alors justement, dans un de mes chapitres, au début, il me semble que si la société, la République, la démocratie aujourd'hui s'honorerait, enfin cette République s'honorerait, si elle examinait sur le fond le message, donc la doctrine des uns et des autres. Et donc je cite en particulier un sociologue qui s'appelle Jean-Pierre Le Goff, qui lui considère qu'il importerait que les temps sont venus d'examiner la compatibilité ou non des religions, de certaines religions par rapport aux autres.
Démocratico-compatibles.
Démocratico-compatibles, exactement. Savoir si, sur le sujet des femmes, sur le sujet de l'égalité, sur beaucoup de sujets de société, est-ce que les religions se valent toutes ? Et est-ce qu'il importe que la République, qui est garante du collectif, puisse distinguer à l'intérieur de ces dites religions ce qui est, effectivement, compatible avec les valeurs de la République, pour faire simple.
Mais là, c'est très périlleux, parce que vous savez que l'islam va être embarrassé, là.
Ah ben, l'islam va être embarrassé, mais elle l'est déjà, parce que dans le débat public tel qu'il existe, il y a effectivement, régulièrement, sur le voile islamique, sur la burqa, etc., une façon négative d'aborder les questions religieuses. Négative, c'est toujours de dire, voilà, il y a effectivement, sur tel et tel point, des éléments qui sont incompatibles, et Dieu sait que certains éléments sont ô combien incompatibles avec nos valeurs. Il n'empêche que ça, c'est l'aspect négatif. Donc, est-ce que l'État a pour vocation d'être seulement le gendarme des religions et de considérer qu'il y a du négatif ici ou là ? Ne doit-il pas aussi prendre en considération le positif des religions ? Ce qui permettrait justement, un, de reconnaître que l'activité religieuse, si on veut, les convictions religieuses ont pleinement leur place pour autant qu'elles gardent leur place et leur stricte place, qu'elles ont pleinement leur place dans le débat, l'agora, etc., d'une part, et que deuxièmement, il y a un élément naturel, simple, de conviction, de prise en compte des convictions religieuses, qui, pour l'instant, effectivement, n'est pas mis en valeur par la République. Et donc, il y a deux façons d'aborder la religion, soit de considérer qu'elle est honteuse, qu'elle est une tolérance, et comme disait l'autre, il y a des maisons pour ça, ou alors de considérer que nous ne sommes pas sur le registre de la tolérance, mais sur le registre de la conviction, une conviction parmi d'autres, voilà, qui a toute sa place et normalement toute sa place dans le champ des opinions, du débat, etc. Et donc de mettre en valeur, quitte à les enseigner à l'école et non pas, comme c'est le cas aujourd'hui, de saupoudrer ici ou là selon la bonne volonté des uns des autres, mais de les enseigner vraiment à l'école, comme c'est fait partout ailleurs en Europe, pour donner un accès direct à tous ceux qui font partie de l'humanité et de donner aussi à ceux qui sont croyants, voilà, et ou plus croyants que d'autres, pour relativiser tout ce qui pourrait être dit par des intégristes ici ou là, qui, se croyant seuls dépositaires des textes, imposent une lecture qui n'est pas celle des textes eux-mêmes.
Damien Le Guay, La Cité sans Dieu, éditions Flammarion. Damien Le Guay, vous êtes philosophe, alors évidemment, beaucoup de questions se posent à partir de ce que vous venez de dire. La première, c'est que si l'État sort de son rôle pour commencer à analyser, à dire ce qu'il va et ce qu'il ne va pas reconnaître dans telle ou telle religion, c'est complètement sortir du système républicain qui, lui, ne se prononce pas, est neutre, est censé être neutre sur la question. Premier point. Et puis, second point, on ne peut faire cette analyse des religions que si l'État républicain se sent en situation de force face à ces religions et pas en situation de faiblesse. Or, si vous commencez à analyser ce qui, dans l'islam, va ou ne va pas, immédiatement, la crainte, c'est de voir l'islam envahir l'espace public. Parce que ce n'est plus les catholiques, ce ne sont plus les catholiques, ni les protestants, ni d'autres religions qui peuvent poser problème dans l'espace public aujourd'hui.
Alors, la question, effectivement...
Donc peut-être la première, d'abord, sortir de son rôle, la neutralité.
Ouais. La neutralité, c'est vrai, c'est pas vrai à la fois. Soit on est dans un système, effectivement, à l'américaine, où toutes les religions ont leur place, quelle que soit leur opinion, et la liberté d'opinion est absolue. Voilà. Soit on est dans un système républicain à la française, où, effectivement, l'État n'est pas neutre. Et donc, ce que l'on disait préalablement sur les enquêtes parlementaires, sur les lois qui se sont succédées depuis plusieurs années, sur l'interdiction qui du voile, qui de la burqa, etc., etc., montre bien que l'État trouve que certaines pratiques sont incompatibles avec les valeurs qui sont les siennes. Bon, donc il n'est pas neutre de ce point de vue-là. La question que je pose, elle est simple, elle est de dire, il y a deux façons de lutter contre les travers, et il y a les travers dans les religions. Il y a deux façons de lutter. Soit effectivement de considérer que la démocratie va digérer les religions et éteindre toutes les convictions, et donc que ce n'est même pas la peine de s'en occuper parce qu'à terme, tout cela va disparaître. C'est le fantasme ou le rêve des Lumières. Et on se rend bien compte que tel n'est pas effectivement le sens de l'histoire. Soit de mettre en valeur aussi, surtout, les éléments positifs, convictionnels des religions, des différentes religions et de certains éléments des religions plus que d'autres pour faire en sorte que les fanatiques ou les sectaires ou tous ceux qui s'emparent à l'intérieur soient désarmés.
On a bien compris, Damien Leguet. Voilà. Mais quand vous allez mener cette analyse, quand vous avez affaire à une religion qui est aussi un système social, inévitablement, si vous commencez à reconnaître ce système, la pertinence de certains points de cette religion, si on prend l'exemple de l'islam, pardon, de s'attarder sur l'islam, inévitablement, l'islam a une prétention à exister dans l'espace public. Donc, si vous apportez une reconnaissance, une caution à certains aspects de cette religion, ça va se traduire par un empiètement sur l'espace public. Or, ça, la République ne veut pas se lancer là-dessus.
Absolument. Alors, je dirais deux choses. La première, c'est que je ne parle pas de l'islam dans mon livre. Donc, il y a dans mon livre un certain nombre d'entretiens, je crois qu'il faut le préciser, avec Mgr Barbarin, Gilles Bernheim, donc le grand rabbin de France, et Luc Ferry, pour déjà essayer de poser la question. Premièrement. Deuxièmement, il me semble que votre question met en évidence une erreur qui est toujours faite, c'est de dire, avant que de poser la question, avant que de revaloriser les éléments de religion permettant de donner du sens, on en est déjà à la troisième étape, qui est de dire, mais alors à ce moment-là, si reconnaissance il y a, donc c'est la porte ouverte au...
C'est ça, la boîte de Pandore.
C'est la boîte de Pandore, c'est, me semble-t-il, la mauvaise façon de poser la question, donc je ne pose pas la question comme cela dans mon livre, et je m'appuie en particulier sur ce qui se passe ailleurs qu'en France. La question de l'islam dont vous parlez, dont je ne parle pas dans le livre, mais enfin la question de l'islam se pose en particulier dans le reste de l'Europe. Comment est-ce que le reste de l'Europe aborde ces questions-là? Elle aborde ça de façon beaucoup plus positive que nous l'abordons nous-mêmes. Et donc, le fait d'enseigner, le fait de donner à lire, de donner les textes, de considérer qu'il y a là une reconnaissance sociale d'une réalité qui existe, est un élément pour désarmer les forces intégristes qui peuvent jouer d'une façon ou d'une autre dans le débat. Troisième élément de réponse, on se rend bien compte, si on parle de l'islam, on se rend bien compte qu'il y a une opposition forte entre un islam tel qu'il est en train de se développer ou qu'il cherche à se développer, bien que très minoritaire dans le monde islamique, en Europe, un islam des Lumières, pour faire très vite, et puis le reste de l'islam et des pratiques qui semblent, parce que peut-être plus politiques ou avec des éléments politiques et sociaux, etc. Donc une conception de la religion sans doute un peu à l'ancienne, si on veut faire vite, qui se pratique ailleurs. Donc si on veut favoriser justement, et c'est ça qui se fait dans le champ intellectuel, si on veut favoriser cet islam des Lumières, cette relecture de l'islam au regard du sens critique qui est le nôtre, encore faut-il que les questions soient bien posées, que la reconnaissance des religions dans l'espace public soit actée.
Que ce ne soit pas un non-dit.
Que ça ne soit pas un non-dit.
Un angle mort.
Exactement. Et que ce ne soit pas quelque chose qui soit laissé à la bonne volonté de quelque intellectuel musulman, en l'occurrence, dans leur coin, et que, justement, le champ du religieux soit accepté comme tel. Je cite un certain nombre d'auteurs, Isaïe de Badinter, je cite tout le groupe des laïcs un peu à l'ancienne, laïcistes, Pena Ruiz, Caroline Forest, Bobéro, etc., qui ont des discours extrêmement durs qu'on n'oserait pas avoir à l'égard d'une autre minorité, quelle qu'elle soit, ou d'un groupe, quel qu'il soit, avec des généralités extrêmement hâtives, sur le risque inhérent aux religions, sur le fanatisme qui est contenu dans les religions, etc., etc. Donc je dis, tout cela, il importe de mettre tout cela en dehors du champ de compréhension et de la tolérance moderne actuelle, et de faire en sorte que les religions, les discours religieux, les valeurs religieuses, celles qui sont bien évidemment compatibles, aient accès à l'espace public.
Damien Leguet, est-ce que les religions, si on prend par exemple le cas du christianisme, est-ce que ces religions ont intérêt à tutoyer, à s'immerger dans la démocratie ? Parce que vu de l'extérieur, si on prend en compte le regard vu du reste du monde, le christianisme est perçu comme la religion qui s'est fait chasser de ses propres terres par un système devenu matérialiste, très largement indifférent, et que pour les religieux, il y a une certaine inquiétude devant cette post-modernité occidentale où est né, on peut dire, pas forcément né le christianisme, mais enfin né dans la figure que l'on connaît qui a permis l'émergence de la civilisation européenne et qui aujourd'hui se retrouve finalement au rang de terrain vague, de désert, Et cela, ça ne fait pas très envie.
Alors deux choses. La première, c'est que soit on considère, et ce n'est pas le cas, j'interroge le cardinal Barbarin dans ce livre, soit on considère que les religions, ou la religion catholique, puisque vous parlez d'elle, défend uniquement les catholiques. Et donc, à ce moment-là, nous sommes dans un discours particulier, spécifique, communautaire. Le cardinal Barbarin répète ce que l'Église dit toujours, à savoir que l'Église...
Ce n'est pas ce discours-là.
Voilà, elle défend l'homme. L'homme universel, quel qu'il soit.
Bon. Il y a une convergence d'intérêts presque.
Et donc, il y a un propos général, universel, sur l'homme, quel qu'il soit. Et donc, il n'y a pas de défense particulière et ou communautaire d'une religion particulière. Donc, naturellement, si la religion catholique dont vous parlez a vocation à parler de l'homme, quel qu'il soit, à ce moment-là, effectivement, il est normal que, défendant l'homme, et étant peut-être le dernier bastion d'un universel qui s'effrite partout ailleurs, la religion catholique puisse avoir accès aux médias. Première chose. Deuxième chose, il faut bien prendre en considération le caractère critique de ce que dit la religion catholique, le pape en particulier, que je cite dans ce livre, sur l'évolution des marchés financiers, sur l'inégalité sociale, tout ce discours social qui est dit et répété à satiété depuis extrêmement longtemps par l'Église catholique n'est jamais relayé. Et donc, cette critique qui est faite, pourquoi n'a-t-elle pas un accès aussi fort que les autres critiques de l'inégalité sociale ? Donc, je dis que cette puissance critique, cette capacité à pouvoir remettre en cause des inégalités, à pouvoir les dénoncer depuis longtemps, se doit d'être mise en avant, au sens de pouvoir être...
Se doit, mais ne l'est pas.
Mais ne l'est pas, voilà. Justement.
C'est donc la cité sans Dieu, précisément.
D'où le New Deal spirituel auquel j'appelle, d'où le Grenelle du symbolique que j'appelle de mes voeux, pour remettre tout cela sur le tapis, pour essayer de mettre à plat ces réalités-là et de repartir d'un nouveau pied pour faire en sorte que nous ayons une relation globalement moins complexée, moins stressée, moins craintive à l'égard des capacités convictionnelles des religions.
Mais votre raisonnement est typiquement celui d'un philosophe de culture chrétienne dans un univers occidental. Parce que pourquoi le christianisme s'est-il fait chasser de sa propre culture, de la culture qu'il a engendrée ? Ce questionnement ne caractérise pas du tout celui d'un musulman qui, lui, se sent plutôt à l'aise dans le système où il est aujourd'hui.
Oui, je crois qu'il faut... Là aussi...
Il y a une singularité quand même au christianisme.
Oui, non, il y a une singularité du christianisme. Ce que je dis simplement, c'est que ma conviction est que nous devons, nous le faisons sur beaucoup de sujets, mais nous devons nous aligner. Nous avons toutes les raisons du monde de nous aligner sur un rapport moins complexé, moins stressé, qui existe partout ailleurs en Europe. Partout ailleurs en Europe, les choses vont presque d'elles-mêmes. Je vous rappelle qu'effectivement, Angela Merkel, tout récemment, a indiqué qu'il était normal de considérer que les valeurs chrétiennes faisaient partie du terreau commun de son pays et ou de l'Europe. Donc, je pense qu'il y a une exception française sur ces sujets-là qui ne sont pas, une exception française qui n'est pas à la hauteur de la crise et de la situation qui est aujourd'hui la nôtre. Et donc, je dis simplement, voilà, après, on peut regarder les modalités, voir comment on peut faire, voir les conséquences, mais n'allons pas trop vite. Essayons de se concentrer sur cette seule problématique-là, qui est celle de remettre normalement la place des religions là où elle doit être et le discours des religions dans la symphonie, disons, des propos qui sont effectivement les siens, plutôt que de le cantonner à la question qui de la capote ou qui du voile.
Cela dit, Damien Le Guay, les sociétés européennes sont quand même très sécularisées, même hors de la France, que ce soit l'Italie, l'Espagne, qui sont censées être des bastions du catholicisme, la situation est quand même très largement comparable.
Mais je distingue deux choses qui n'ont rien à voir. Il y a effectivement, une approche confessionnelle, qui n'est pas la mienne dans ce livre, et deux, une approche culturelle et ou sociétale. Mon approche est une approche sociétale et ou culturelle. C'est de considérer, que effectivement nous ne pouvons pas comprendre la culture qui nous a précédés et qui est dans les musées ou partout ailleurs sans avoir un accès et une connaissance culturelle de la religion catholique et chrétienne en l'occurrence.
Ce que dit Régis Debray, par exemple.
Ce que dit pleinement Régis Debray, voilà. Donc ça, c'est la première chose. Et donc, ne pas connaître son histoire biblique, c'est une faute, me semble-t-il, contre la culture. Et donc, ce qui s'est perdu depuis quelques années dans l'enseignement, c'est aussi cela. Donc ça rend le passé absolument incompréhensible pour une grande majorité de nos concitoyens, première chose. Et deuxièmement, la question de la confession ou pas la confession, c'est un autre sujet. C'est un débat qui concerne les églises, disons, dans leur part de marché respective, et qui ne concerne pas mon livre. Mon livre se limite, ce qui est déjà beaucoup, à considérer qu'il y a de l'universel dans les religions. Il y a un propos critique contre les évolutions de la société telles qu'elles existent aujourd'hui, et que donc, il importe d'avoir accès, et je renvoie en particulier à ce grand philosophe allemand Habermas, qui, effectivement, tout récemment, on est arrivé à la même conclusion, à savoir qu'il y a un épuisement du projet démocratique, un épuisement de la sécularisation telle qu'elle est pratiquée, un épuisement des individus dans cette société, et que donc, pour lutter contre ces trois épuisements, il importerait, dit Habermas, champion s'il en est de la sécularisation, il importerait
d'aller se rafraîchir à l'oasis des religions, d'aller, du moins de ce qui...
Exactement, et donc de faire appel à cela, de voir comment ça se passe. Habermas ne dit pas « redevenons tous catholiques », il dit simplement « il y a là des réserves de sens, des réserves d'imagination, des réserves de rationalité sur des sujets qui ne le sont pas toujours. » Et donc, si on veut redonner, effectivement, sortir de cette anémie spirituelle et ou intellectuelle qui est la nôtre dans nos sociétés d'aujourd'hui, il n'est pas impossible de considérer, dit Habermas, que nous allions voir ce qui se passe dans ces religions pour dialoguer avec elle, normalement, tranquillement, sans appréhension particulière.
Cela dit, chacun est responsable et peut le faire à loisir. En soi, il n'y a pas besoin de contraintes publiques, il n'y a pas besoin de remise en cause du système public. Non, chacun est libre aujourd'hui d'entrer dans un lieu de culte ou d'aller lire un livre qui traite de ces choses-là.
Voilà, ça laisserait supposer effectivement que là, nous sommes dans le confessionnel. Moi, je suis dans le culturel.
Donc... Oui, mais même pour la culture, on a un accès assez facile aujourd'hui quand même, non ?
Je suis dans le culturel et ou dans l'universel. Et je dis qu'effectivement, si dans le système scolaire, l'accès ou la connaissance de ces strates culturelles n'est pas pratiquée par les élèves, si l'enseignement du fait religieux suite au rapport Debré est fait avec une parcimonie qui ne dépend que de la seule bonne volonté des enseignants, on se retrouve avec une ignorance crasse de nos chères têtes blondes.
En fait, c'est un réquisitoire contre l'ignorance, Damien Le Guay.
Exactement. Je crois qu'il faut valoriser l'intelligence où qu'elle soit. Il faut valoriser le sens où qu'il soit. Il faut valoriser tout ce qui redonne de la compréhension rationnelle, si on veut, même celles qui sont le plus cachées. Et donc, il n'y a rien de pire que l'ignorance et ou la bêtise, qu'elle soit dans les religions ou qu'elle soit dans la prétendue laïcité, c'est-à-dire celle qui prend le prétexte de laïcité pour évacuer toute la part de conviction religieuse. Donc, c'est un appel, effectivement, à l'intelligence, c'est un appel à tout ce qui nous permet de donner du sens à nos vies.
Merci beaucoup, Damien Le Guay. La Cité sans Dieu aux éditions Flammarion, vous êtes philosophe, je cite quand même quelques-uns des interlocuteurs qui sont les vôtres dans cet ouvrage et que vous avez rencontrés. Il y a Jacques Julliard, Émile Poula, Jean-Luc Marion, Jean-Paul Willem que vous avez cité, Rémi Brague, René Girard, Pierre Nora, des personnes que vous avez interrogées, notamment pour Canal Academy, puisque c'est ici que vous êtes fait l'écho aussi de toutes ces préoccupations. Et ça sert bien à cela, justement, de pouvoir s'entretenir sur ces questions de fond. La Cité sans Dieu, donc, c'est votre dernier essai aux éditions Flammarion, et c'est signé Damien Le Guay. Merci.
Merci.